Avant de... Mais c'est bien, puisque c'est enregistré, c'est bien, parce que je pense que ceux qui nous écoutent sur Internet ont besoin d'entendre ce que je voulais dire dans les annonces. Ce matin, dans la prière, une quinzaine de fois, au moins, une quinzaine de fois, j'ai eu à cœur de vous demander de faire quelque chose. Je pense que c'est bien que vous le fassiez. Que vous preniez la première épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1er, du verset 13, à la fin du chapitre 3. Vous savez que c'est un chapitre qui nous parle, il y a plein d'instructions, et ce chapitre se termine, pour ainsi dire, avec cette exhortation, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et ce matin, chaque fois que je priais, j'abordais un sujet ou une situation, et chaque fois ça me revenait. Et j'en ai déduit que Dieu voulait que je nous encourage à le faire d'une manière consensuelle. Si votre mari ou votre femme est converti, faites-le ensemble. Mais prenez toutes les instructions qu'il y a dans ces chapitres, 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre 3, prenez-les. Afin, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous éclaire et que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Mais j'en suis convaincu, c'est pas trop mon habitude de vous dire quel doit être votre culte personnel. Mais faites-le s'il vous plaît, faisons-le s'il vous plaît. Il y a énormément d'instructions qui nous permettent de comprendre ce qu'il faut faire pour que nos prières soient exaucées. Car je pense que nous voulons que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. C'était bien que ce soit dans la prédication pour les internautes. Nous allons donc lire un texte dans Hébreux chapitre 11. Qui est vraiment le thème de la prédication. Je ne sais pas si vous aimeriez terminer votre vie de cette façon. Hébreux chapitre 11, verset 5. Vous avez lu la Bible, est-ce que vous êtes arrivé à vous identifier à quelqu'un de la Bible? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, tiens, ah, cette personne, voilà, c'est cette personne. Parce qu'il y a des personnes à qui vaut mieux pas ressembler. Mais il y a des personnes, oh, moi j'aimerais bien être comme cet homme, comme cette femme qui ont marqué l'histoire, hein. Hébreux chapitre 11, verset 5, il nous est parlé de Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Est-ce que vous aimeriez que cela soit votre expérience? Est-ce que vous aimeriez que ce soit ce qu'on dise de vous avant votre mort ou après votre mort? Voilà, le témoignage qu'a rendu ce frère, le témoignage qu'a rendu cette sœur, ils ont rendu ce témoignage qu'ils étaient agréables à Dieu. Est-ce que ça vous plairait? Eh bien oui, eh bien on va y travailler. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans le flou. Alors, on va d'abord lire deux autres textes. Dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 10... Parce qu'être agréable à Dieu, ça s'explique, ça se travaille naturellement. Éphésiens chapitre 5, verset 10. C'est une instruction qui est présentée de cette façon. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est ce qu'on va faire. On va le faire d'une manière très sérieuse. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et le dernier texte, dans Hébreux, on revient, s'il vous plaît, Hébreux chapitre 12, on va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 29, Hébreux 12, verset 25 à 29, Hébreux 12, verset 25 à 29. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dans le verset qui nous intéresse, c'est « Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte ». Voilà, montrons à Dieu notre reconnaissance. Aller dans un lieu de culte ne fait pas forcément que je suis quelqu'un d'agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que je chante que j'aime Dieu. Il y a beaucoup de cantiques qui expriment la façon dont nous devons aimer Dieu. Il y a un beau cantique que l'on chante parfois, c'est « Je t'aime Seigneur », qui est un très très beau cantique, mais ce n'est pas parce que je le chante que je le vis véritablement. Alors, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur? Parce que c'est une question, c'est une vraie question. Comment sait-on si cette personne est agréable à Dieu? Comment sais-je? Est-ce que je sais si je suis agréable à Dieu? Jeudi soir, avec le pasteur Olé, à la formation des pasteurs et à la formation des anciens, nous avons introduit, enfin, monsieur Olé a introduit avec cette question que l'évangéliste pose à l'eunuque éthiopien: comprends-tu ce que tu lis? Il lui pose la question: comprends-tu ce que tu lis? Jésus a déjà fait aussi également a posé cette question dans les évangiles. Comprenez-vous ce que je vous ai dit? Je pense que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Le don spirituel, le premier don spirituel que nous avons entendu ce matin, est évident, il s'adresse à quelqu'un qui croit qu'il est sauvé et qui est perdu. Et il y a beaucoup de chrétiens, d'ailleurs si vous lisez les 7 textes où Jésus parle des pleurs et des grincements dedans, si vous regardez bien, ce sont des textes, tous les textes parlent à des chrétiens qui pensent qu'ils sont sauvés et qui ne sont pas sauvés. Les Vierges folles, c'est un autre texte, il y a énormément de textes où Jésus parle à des chrétiens qui s'imaginent qu'ils sont sauvés, comme les chrétiens de la Odyssée, qui s'imaginaient qu'ils étaient riches, etc., etc., alors qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient pauvres. C'est pour cela que nous devons comprendre ce que nous lisons. Paul disait souvent: « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ». Aux chrétiens de Corinthe, il explique que les chrétiens ne furent pas agréables à Dieu. Vous le vérifiez dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 11, et il parle de leur comportement. Il dit: « Mais la plupart, pas tous, mais la plupart ne furent pas agréables à Dieu ». Vous verrez, il est parlé de mauvais désirs, de cœurs idolâtres, du désir de divertissement. Voilà, ils voulaient se divertir. Moïse tardait à revenir, alors ils voulaient se divertir, ce qu'on voit de plus en plus dans les églises, où on cherche de plus en plus de divertissement, voilà, etc. Leur cœur poussé à la débauche. Ils ont été poussés à la débauche. Vous connaissez ces textes. Ils tentèrent le Seigneur, ils murmurèrent le Seigneur, et il est ajouté, la plupart ne furent pas agréables à Dieu. Donc c'est une question qui nous préoccupe, vraiment, enfin j'espère qu'elle vous préoccupe. Est-ce que je suis agréable au Seigneur? Souvent on fait chanter à nos enfants, il y a un petit chant qu'on chantait à l'époque, Jésus-Christ est mon ami. Vous connaissez ce cœur? Jésus-Christ est mon ami. C'est un petit cœur pour les enfants. Mais moi je ne suis pas du tout sûr qu'on aide nos enfants en leur faisant croire de tout petit que déjà ils sont l'ami du Seigneur. Parce que Jésus est catégorique, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors c'est vrai que ce sont, vous allez me dire, ouais, mais tu pinailles. Non, 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 ce sont des petites chansons qui ne peuvent qu'égarer nos enfants. Ou alors il faut bien leur expliquer. Si vous obéissez au Seigneur, si vous marchez avec lui, etc., vous pouvez chanter ce petit cœur. Les enfants comprennent très très bien. C'est une question d'honnêteté, comme cet eunuque qui a entendu, ministre qu'il était, comprends-tu ce que tu lis? Aujourd'hui, on dirait à certains ministres, est-ce que tu comprends la Bible? Je ne sais pas comment y réagirait. Mais mes frères et sœurs, il n'y a pas de honte à dire non. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne m'aide? Et je suis là, bien sûr, pour vous aider. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que vous aimeriez qu'on dise ça le jour de votre enterrement? Vous aimeriez? Oui. Vous vous rendez compte de la bénédiction que ça représente? Avant sa mort, c'est un homme qui donnait un témoignage extraordinaire. Il était agréable à Dieu. Quelle bénédiction! Alors, comme la prophétie l'a dit, parce que quand même, je ne sais pas dans toutes les églises comment les gens réagiraient s'ils entendaient des prophéties comme ça. Parce que je crois qu'il faut que le Saint-Esprit puisse nous parler d'une manière sévère si cela est nécessaire. Si un chrétien est perdu, il faut qu'il le sache. Il faut qu'il sache que s'il vit dans le péché volontairement, eh bien, il est perdu. Il doit l'entendre. Et il y a des chrétiens, moi je le sais, si vous saviez le nombre de gens que j'ai repris, qui sont partis de l'église, parce qu'on a dû leur dire, pourtant avec tact, avec peut-être pas toujours assez, mais quand même. Ce qui est important, c'est qu'on nous le dise. Un docteur, même s'il n'est pas toujours plein de finesse, ce qui est important, c'est qu'il vous dise ce que vous avez. Après, tant pis, s'il est gentil, tant mieux, mais s'il n'est pas gentil, au moins qu'il nous dise la vérité. Vous êtes d'accord? Vous préférez que votre docteur soit gentil ou compétent? Bon, compétent et si possible, mais s'il n'est pas gentil, tant pis. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, le pasteur, c'est quand même mieux qu'il soit un peu gentil. Mais ce n'est pas la gentillesse qui fait la spiritualité. Ce qui fait la spiritualité, c'est la vérité et la parole de Dieu. Donc, on vient de lire un texte, montrons à Dieu notre reconnaissance avec un culte qui soit agréable. Comment? Avec piété et avec crainte. Comment devons-nous montrer notre reconnaissance au Seigneur? Ce matin, vous l'avez fait à haute voix, vous l'avez fait avec des chants, vous l'avez fait certainement en prenant la Sainte-Cène, vous avez peut-être prié intérieurement, ceux qui n'ont pas élevé la voix. Oui ou non? Vous n'avez pas élevé la voix? Est-ce que vous avez loué le Seigneur? Oui, il y en a qui n'ont pas loué, qui n'ont pas eu le temps de lever la voix. Je suis convaincu que tous les chrétiens ont dit « Seigneur, merci. Merci pour ton sang, merci pour ton corps brisé. » Je pense que tous, on a montré notre reconnaissance à Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît des textes bibliques par cœur. Moi, je me souviens, Albi avait une sœur qui connaissait tous les textes par cœur. Dès que le pasteur disait « Où se trouve ce texte ?» Tac, elle levait la main. C'était impressionnant. Et moi, je pensais que cette sœur, comme elle connaissait tout par cœur, je pensais qu'elle était spirituelle. Et puis, en discutant avec elle, je me suis rendu compte que ce n'est pas parce qu'on connaît des textes par cœur qu'on est spirituel. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on connaît des cantiques par cœur. La doctrine, est-ce que c'est bien de connaître la doctrine par cœur? Est-ce que c'est bien? Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien de connaître la saine doctrine. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît la saine doctrine par cœur qu'on montre notre reconnaissance à Dieu. Est-ce qu'il faut être habillé avec une cravate le dimanche? Est-ce que ça détermine que quand même on est spirituel? Si on est bien habillé, dites-moi. Ceux qui ont la cravate, est-ce qu'on est mieux que ceux qui n'ont pas? Hein, Jean-Marc, hein? D'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Vous voyez que Madame de Larbre est tout le temps en train de me contredire. Hein. Mais vous savez, je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais mes frères et sœurs, je pense que c'est important de venir bien dans la maison du Seigneur. Je pense que c'est bien. On vient pour le Seigneur. Je crois qu'il faut bien venir. Il faut faire attention, dans la mesure du possible, de bien venir correctement dans la maison du Seigneur. Cravate ou pas cravate. Mais ce n'est pas ça qui détermine la spiritualité de la personne. Ce n'est pas parce qu'on a une fonction dans l'église. Moi, je soupire parce que j'ai peur. Je vous avoue que j'ai peur pour les chrétiens qui font rien. Je me fais du souci. Mais ce n'est pas parce qu'on exerce une fonction dans l'église, quelle qu'elle soit, que l'on a une véritable piété. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche, parce que quelqu'un fait ceci, fait cela, qu'il a une véritable piété. Ça n'a rien à voir avec un service, ça n'a rien à voir avec une attitude, ça a à voir avec quelque chose qui se passe dans le plus profond de son cœur. C'est quelque chose d'invisible, pour ainsi dire. Nous voyons la personne à l'extérieur, mais il n'y a que Dieu qui voit le cœur de la personne. Un des grands problèmes de l'homme aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure de la façon dont certains chrétiens sont influencés par les journalistes lorsqu'ils regardent les informations, et l'homme a pris l'habitude de juger. C'est un réflexe que nous avons. Dès que nous voyons quelque chose, nous émettons un jugement. Des fois, ce n'est qu'une analyse, mais souvent, ça se transforme vite en jugement. Alors, c'est bien, c'est pas bien. Du temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je pense qu'on devrait faire ci, on devrait faire cela. Moi, je sais comment ça fait, il faut faire, etc., etc. Je pense pas que c'est bon. Parce que les gens qui ont pris l'habitude de tout juger ont pris l'habitude de juger la Bible. Et ils ne laissent pas la parole de Dieu juger leur cœur. Ils s'autorisent à juger la parole de Dieu. Et la crainte de Dieu, puisque on a vu que pour rendre un culte agréable à Dieu, il faut l'offrir avec piété et avec crainte. Mais la crainte, c'est se détourner du mal. Alors on n'a pas le temps de tout lire, mais on va lire trois textes courts. Un dans Job, où Dieu parle lui-même de la droiture de Job. Ses amis n'avaient pas du tout. Vous avez vu les amis de Job, comment ils parlaient de lui ? À cause des épreuves qu'il traversait, regardez les propos des amis de Job, et je vous assure qu'il le jugeait sévèrement. Comment Dieu parlait de Job? Parce que c'est ça qui est important, comment Dieu nous voit-il? Regardez, vous avez la définition, puisque c'est Dieu qui la donne, exacte de ce qu'est l'intégrité. Job 1, verset 7. Verset 7. L'Éternel dit à Satan. Job 1, verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, dont la définition de l'intégrité elle suit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà ce qu'est l'intégrité, selon Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui le dit, c'est quelqu'un qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Si on va un petit peu plus loin, alors j'ai que l'embarras du choix, dans le psaume 36, on peut lire les 5 premiers versets. C'est important parce que beaucoup de chrétiens s'autorisent à pécher. Ils n'ont pas compris ce qu'était la crainte de l'Éternel. Psaume 36, verset 1er, verset 2. La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Voyez, il ne repousse pas le mal. Psaume 34, versets 12 à 15. Psaume 34, voyez. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Ça s'enseigne. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Donc, voyez-vous dans ces textes, éloigne-toi du mal. Quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, c'est quelqu'un qui s'éloigne du mal. C'est comme ça. Je sais, parce que du mal, il y en a. Il y en a ou il n'y en a pas du mal? Bon, vous avez vu. C'est un effort constant, il y a tout un tas de choses dont il faut apprendre à s'éloigner. Il y a des choses, elles nous sont imposées, c'est clair que vous traversez une avenue, vous avez déjà plein d'affiches publicitaires, c'est clair, il faut apprendre à se détourner du mal. La télévision, c'est la même chose, il faut savoir regarder ce qui est regardable et ne pas regarder ce qui ne l'est pas. Internet, etc., etc., c'est pareil. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui commence à être agréable à Dieu? C'est quelqu'un qui se détourne du mal. Noé était saisi d'une crainte respectueuse. La crainte respectueuse, c'est dire, voilà, ce n'est pas à moi de juger la parole, c'est à la parole de Dieu de me montrer. Et mes frères et sœurs, moi je vous assure, toutes les semaines, j'ai affaire avec quelqu'un qui me téléphone, qui m'envoie un courrier, ou un mail, etc., ou d'ici, toutes les semaines, quelqu'un qui conteste la parole de Dieu. Alors bien sûr, les gens d'ici, ils s'en vont, les gens qui contestent, mais ça arrive. Des gens qui découvrent, qui veulent une église, et puis je leur dis, mais non, ça ne va pas. Ce n'est pas à nous de juger la parole de Dieu. Ça s'appelle, bien sûr, l'apostasie. Il y a deux apostasies, en vérité. Il y a l'apostasie doctrinale, c'est-à-dire que c'est le rejet de l'enseignement du Seigneur, et de plus en plus c'est entré dans les églises, on rejette la doctrine. Et ou alors, une partie de la doctrine. Bien sûr que tout ce qui est amour, ça on l'accepte. Dieu est un feu dévorant, comme on l'a lu, ça va avoir du mal à être accepté. Et j'ai souvent dit, par exemple, que combien est parle, vous voyez, l'autre fois, j'étais dans une réunion, et il y avait quelqu'un qui dit, oh Seigneur, je te loue parce que tu es mon papa du ciel. Mais voyez, tout ça, ça déforme la vérité. Parce que dans l'esprit des gens, ça leur laisse penser, je l'ai dit mille fois, ça leur laisse penser que Dieu est un papy qui passe sur tout. Ce n'est pas la sainte doctrine. C'est comme ça que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu ne sera jamais notre papa. Dieu sera notre père. Et je trouve que c'est déjà extraordinaire. Et moi, je l'ai tout le temps dit, et c'est M. Olé, une fois qui m'a passé une étude sur des docteurs du grec qui ont prouvé qu'il n'y avait pas du tout le mot papa dans le mot père. Ça, c'est des inventions de l'homme. Et ça, bon, je ne le savais pas, mais ça ne m'étonne pas, parce que je crois que l'esprit n'est pas divisé. Mais c'est pour vous dire comment on en arrive à se détourner de la saine doctrine. L'esprit dit expressément que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, et ils prescriront de ne pas se marier. Et vous connaissez tous ces textes sur les fornicateurs, les adultères. Il est écrit, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Moi, quelqu'un cette semaine me posait la question, mais est-ce que des fornicateurs, s'ils sont fidèles, eh bien, ils ne peuvent, peuvent pas aller au ciel. Mais écoutez, ce n'est pas moi de juger. La Bible dit que les fornicateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et si vous voulez vivre dans le concubinage, même si c'est légal, eh bien, vivez-y, mais moi je vous dis que vous n'irez pas au ciel. Et ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas du légalisme, c'est la vérité. La débauche, l'adultère, voilà, vous pouvez vivre avec quelqu'un sans être marié, on ne vous forcera pas à vous, on ne vous forcera pas à vous marier, on ne vous forcera pas à régulariser. Je vous rappelle que vous êtes dans une église, vous n'êtes pas dans une secte où un gourou vous oblige à faire ce qu'il a envie de vivre, mais moi je vous dis que les adultères et les fornicateurs et les débauchés et les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça nous plaît, ça nous plaît pas, écoutez, ce n'est pas à nous de juger. C'est le Seigneur qui le dit. Il le dit parce qu'il aime les homosexuels, Dieu aime les lesbiennes, Dieu aime les pervers, mais il faut qu'ils se repentent. Voilà. Et si vous êtes dans ce cas de figure, ne vous sentez pas condamné, ne vous sentez pas malade, sentez-vous aimé de Dieu qui veut vous amener à la repentance. Et c'est important. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne ferai pas ce que quelqu'un m'a dit dernièrement, Monsieur Gault, vous devriez, pour avoir du monde, vous devriez peut-être baisser le niveau spirituel. Vous auriez plus de monde. Je dis, mais je ne cherche pas à avoir plus de monde. Moi, je cherche à honorer la parole de Dieu. Mais voyez cette mentalité, mais c'est entré dans les églises. C'est entré. Ça s'appelle l'apostasie doctrinale. Après, il y a l'apostasie morale. C'est que les chrétiens ne veulent plus demeurer en Christ. Ils veulent bien demeurer dans une église pour penser que tout va bien. Mais ils acceptent l'immoralité et ils retombent, bien sûr, petit à petit, dans le péché. Vous savez, il y a quelques années, j'ai souffert d'une situation. C'était ici. Pas d'une situation d'église, mais d'une situation qui était liée à tout le corps pastoral. Et je disais, mais Seigneur, mais pourquoi? Et regardez ce que... Le Seigneur m'a donné la réponse. J'ai été poussé à lire l'Ecclésiaste. Et je vous le lis parce que c'est important. Des fois, on se pose des questions. C'était l'Ecclésiaste chapitre, je l'ai marqué, oui. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, je me disais, mais pourquoi il y a tant de serviteurs qui tombent? Parce qu'il y en a des serviteurs qui tombent. Il y en a. Et je dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et parce que quand même, vous allez me dire, oui, que celui debout prenne garde de ne pas tomber. D'accord, je le sais. Mais quand même, je vous donne une autre explication. Et dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7, bon, il faudrait lire tout le chapitre pour bien comprendre. Mais regardez, on va lire les deux versets ou trois qui nous intéressent. Ecclésiaste 7, verset 17, ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas insensé, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Je le répète, celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Verset 26, j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un filet et un piège et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le pécheur est pris par elle. Donc si vous mettez les deux versets ensemble, vous en déduisez que celui qui craint Dieu est agréable à Dieu et que cette affaire-là fait que le chrétien échappe à certaines tentations, à certaines convoitises et à certains péchés. Mes frères et sœurs, les exhortations du Seigneur, il y a tous les textes qui nous parlent de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde et on n'en finirait pas. Mais il y a des exhortations sévères. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne va pas commencer à négliger et à mépriser ses instructions. Voilà comment commence la crainte de Dieu. Il est certain que quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne méprisera et ne négligera aucune instruction, quelle qu'elle puisse être, même si elles sont sévères. Il veille, un chrétien, il veille. Ce n'est pas écrit régulièrement. Jésus ne l'a pas-t-il pas dit? Veillez, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Ce sont des paroles peut-être qui vous plaisent pas beaucoup, mais si nous ne veillons pas, vous connaissez ce texte de l'Apocalypse, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Mes frères et sœurs, avez-vous la crainte de Dieu? Répondez ou répondez pas, ce n'est pas grave. Mais dans votre cœur, est-ce que vous dites oui, tout ce que Dieu dit est important? Tout ce que Dieu dit est sérieux. Si le Seigneur m'a parlé ce matin par le don spirituel, si le Seigneur me dit que je vis dans l'illusion, que je crois que parce que le psaume 23 est mon psaume préféré, parce que je pense que, comme l'apôtre Paul, rien ne me séparera du Seigneur, mais le péché, mes frères et sœurs, il nous sépare du Seigneur. Et il est certain que beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Mais nous avons mangé avec toi. Vous vous rendez compte de ceux qui avaient mangé avec le Seigneur Jésus. C'était quand même un méga privilège, oui ou non? Vous ne trouvez pas que c'était quand même bien? Vous n'auriez pas aimé vous prendre un petit repas avec le Seigneur Jésus, même un petit hamburger? Vous n'auriez pas aimé prendre un repas avec le Seigneur? Et Jésus dit à ces gens qui vont lui dire, mais nous avons mangé avec toi, tu as été dans nos rues. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Ça nous prouve que beaucoup de chrétiens sont dans l'illusion parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et le culte que Dieu attend, ce n'est pas 2 heures le dimanche matin, vous le savez, je l'ai suffisamment dit, ce que Dieu attend, un culte qui est agréable à Dieu, c'est une vie qui vit, qui baigne dans ce respect des choses spirituelles. Et c'est ça le problème, c'est le manque de crainte, je le sais parce que je ne peux pas faire autrement, c'est le manque de crainte qui fait que l'on tolère de plus en plus le péché dans sa vie. On tolère un petit peu, un petit truc, c'est pas grave, oh tu as dit ça, bon mais c'est pas grave. Et la personne elle finit par mentir, et, mais c'est grave. Moi je vous assure, il y a des chrétiens qui m'ont dit, mais oui on ment, qu'est-ce que vous voulez faire au boulot? On est obligé de mentir, le patron il faut que ça soit comme ça, je risque de perdre mon boulot. Écoutez-moi, moi je pense que vous n'êtes pas obligé de mentir. J'ai travaillé dans le monde et je sais quand on m'a dit qu'il faut faire ceci, si tu diras ça, j'ai dit non, je ne mentirai pas. Et je crois qu'il faut faire attention de ne pas se les faire piéger par l'ennemi. Vous n'êtes pas obligé de mentir. Et si il venait à arriver que l'on vous renvoie, moi je vous dis que Dieu vous bénira. Mais mes frères et sœurs, soyons sérieux. Quand j'entends dire, oh mais je ne peux pas faire autrement, vous ne comprenez pas. Si, je sais. Parce que moi, j'ai travaillé avec une patronne qui m'a dit un jour, je ne veux pas que tu fasses ça. Et je dis, ah mais je le ferai. Je suis chrétien, je suis désolé. Elle voulait que je mente au téléphone. Tu dis que je ne suis pas là. Je dis, mais je peux vous dire. Mais moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et un mois après, elle me confiait tout l'argent de la boîte, etc. Elle me dit, je te fais confiance et tout. Mais, voyez, mais j'ai dit, vous pouvez me virer si vous voulez. Mais je ne mentirai pas. Et j'ai pu témoigner à toute l'entreprise. Je dis ça. Parce que je crois que Dieu nous demande d'avoir la crainte de Dieu. Et que si Dieu nous demande la crainte de Dieu, c'est pas de dire, oh, monsieur Gros, c'est pas ça. Tout le monde peut prendre la décision d'obéir au Seigneur. Il n'y a pas des gens qui sont meilleurs que les autres, ça j'y crois pas. Vous croyez-vous qu'il y a une élite dans le royaume de Dieu? Vous croyez qu'il y a des gens meilleurs que d'autres? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'on est tous égaux, on est tous sur le même pied d'égalité, et que si Dieu nous demande d'avoir la crainte, tout le monde peut avoir la crainte. Tout le monde. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Le manque de crainte, lorsque l'on vient, et qu'on fait des reproches à Dieu. Je ne comprends pas pourquoi Dieu a dit ça. Malheur à l'homme qui conteste avec le Créateur. Le problème, c'est que petit à petit, sans que les chrétiens ne s'en rendent compte, ils attristent le Saint-Esprit, je le résume tout ça, ils attristent le Saint-Esprit et ils finissent par éteindre l'Esprit. Ce n'est pas écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit à des chrétiens. Et quand on a éteint le Saint-Esprit, on ne se rend même plus compte de l'état spirituel dans lequel on se trouve. Rappelez-vous Samson qui a joué avec toute la grâce que Dieu lui avait donnée. Et à un moment donné, il est écrit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et moi, quand je vois certains chrétiens, comment ils vivent, je peux vous dire que si le Saint-Esprit ne s'est pas retiré entièrement d'eux, je peux vous dire qu'il est enfoui et lui mignon, on voit plus rien du tout. Mes frères et sœurs, ce sont des choses sérieuses. Ne nous laissons pas séduire par le péché. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il échappera à toutes ces choses. Vous voulez être béni? Eh bien, demandez au Seigneur, je veux avoir la crainte de Dieu. Noé n'était pas un surhomme. Noé, à un moment donné, il a choisi, même si le mal se répandait sur toute la terre, même s'ils n'étaient pas nombreux à la réunion de prière. Moi, je vous le dis. Eh bien, Noé, il a décidé d'avoir la crainte de Dieu. Enoch a décidé pendant 365 ans de marcher avec Dieu. Pourtant, la terre était remplie de violence. C'est un choix. Ne dites pas, oh, moi, si j'avais vécu à telle époque, je suis sûr que je serais pieux. Oh, si ma femme était convertie, je suis sûr que je serais pieux. Écoutez, nous vivons avec Dieu et Dieu nous fait grâce tous les jours, quelle que soit la condition dans laquelle nous sommes. Et lorsque l'on arrive à ce stade, voilà les chrétiens qui ne veulent plus se repentir. Quand ça se représente, c'est pour ça. Alors tiens, j'avais en profité pour expliquer un texte qui revient souvent dans vos questions, c'est dans Hébreux chapitre 6. Il y a un texte, une question que l'on me pose très 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 souvent, tous les nouveaux chrétiens me la posent et c'est bien. Dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4, il y a un texte qu'il faut expliquer. Je vais prendre 2 minutes pour le faire. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça résume bien tout ce qu'on vient de voir. Hébreux chapitre 6, verset 4. Ah, c'est vrai que la première fois que moi j'ai lu ce verset, ça fait réfléchir. Ça fait même peur. Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Alors il y a des gens qui m'ont dit, voilà, Dieu ne peut pas me pardonner, parce que je suis tombé, j'ai chuté, et j'ai lu qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés soient de nouveau amenés à la repentance. Mais bien sûr, si je veux vivre dans le péché, si je veux continuer à vivre dans le péché, et surtout, si je ne veux pas de Jésus-Christ crucifié, si je ne veux plus du sang de Jésus-Christ, il est impossible que je sois amené de nouveau à la grâce, puisque je refuse de passer par Jésus-Christ. Et il y a des gens qui ne veulent pas repasser par Jésus-Christ. Ils passent par les œuvres. Moi, je n'ai pas besoin de Jésus. Moi, si j'irai au ciel par les œuvres, si je fais des œuvres, si je donne de l'argent, et si je fais ceci, le Seigneur en tiendra compte et je serai sauvé. Je suis désolé, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. On pourrait citer tous les cas de figure, mais frères et sœurs, quand quelqu'un se repent, il est restauré. Dans l'Apocalypse, vous avez sept églises, dont cinq vont pas bien, six une qui va un peu mieux. Mais Jésus dit à chaque église, dont même certains sont morts, repens-toi et je te donnerai de l'arbre de vie. On voit bien que quand il y a repentance, il n'y a pas d'échec fatal. Mais il faut qu'il y ait une véritable repentance. Pas du bout des lèvres, ah ouais, c'est pas bien, pardon, ouais, je t'ai mal parlé, ouais, c'est bon, tu vas pas me faire une histoire. Non, 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 non. Je veux vraiment me repentir de mon attitude, de mon comportement. C'est comme ça qu'on attriste le Saint-Esprit, parce qu'il est quand même dit, par exemple, que toute amertume, toute animosité, vous savez, n'éteignez pas l'esprit. Voilà, nous voulons voir des convictions de péché, nous voulons voir tous nos enfants sauvés, et bien qu'il y ait la crainte de Dieu dans l'Église. C'est important, mes frères et sœurs. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Tous ceux qui se contentent d'une croyance superficielle n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a des gens, moi je l'ai vu, je suis désolé de devoir le redire, mais c'est peut-être pour quelqu'un, d'ailleurs la prophétie l'a bien dit, il y a des gens qui viennent, ils s'imaginent qu'ils sont sauvés parce qu'ils vont à l'église. Ils s'imaginent qu'ils sont sauvés parce qu'ils prennent le pain et le vin. Ils s'imaginent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont dans une église où on est sérieux. On ne va pas non plus ne pas dire ce qui est vrai. Mais mes frères et sœurs, vous n'êtes pas sauvés parce que vous êtes dans une église sérieuse. Vous êtes sauvés parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur et que vous vivez dans la sanctification et que vous acceptez que le sang de Jésus vous purifie. Jésus est clair. Exerce-toi à la piété. C'est une grande source de gain que la piété et le contentement. Est-ce que vous voulez beaucoup gagner? Eh bien, ayez de la piété et du contentement. Le contentement, c'est important, le contentement. Je suis content. Est-ce que vous êtes content? Est-ce content de la vie que Dieu vous a donnée? Est-ce que vous pouvez dire, je suis content, merci Seigneur. Merci Seigneur, j'ai une église, merci Seigneur, j'ai la santé, j'ai des yeux, j'ai des bras, je peux manger. Tiens, j'ai mon frigo, il est plein, j'ai pas besoin d'aller courir, de faire la manche. Est-ce que vous êtes content? C'est une grande source de gain que la piété et le contentement. Alors, oui, on est agréable à Dieu quand on entretient cette crainte, ce respect de toute la parole de Dieu, pas que de ceux qui nous intéressent. Et lorsqu'on a une véritable piété, alors je termine avec cette question, quelle est notre véritable piété? Quelle est notre véritable piété? Je vous racontais une fois l'histoire de ces deux jeunes qui étaient venus me trouver et qui m'ont dit, Monsieur Gou, est-ce que vous pouvez nous faire un séminaire sur la louange? Alors je leur avais dit, moi, vous savez, c'est pas mon sujet préféré. Par contre, je vous propose de vous faire un séminaire sur la piété. Elles m'ont regardé, deux chrétiennes. La quoi? La piété. Elles se sont regardées, mais c'est quoi la piété? Et vous voyez, ça m'a vraiment fait de la peine. Je vous le dis, là, vous souriez, mais je vous assure, ça m'a fait de la peine. Et si Dieu parle souvent de la piété, c'est que c'est sérieux. Il n'en parlerait qu'une fois, pour moi c'est sérieux. Mais si Dieu en parle si souvent, c'est que c'est sérieux. Si vous voulez une définition de la piété, c'est l'amour et le respect des choses spirituelles. Les chrétiens qui sont agréables à Dieu, ce sont des chrétiens qui ont une véritable piété. Comment est notre piété? Dans l'Ancien Testament, Dieu parle des Hébreux, il leur dit, mais votre piété, elle est comme la rosée du matin. Vous avez vu la rosée le matin, en ce moment? Vous avez vu, il y a plein de rosées. Et à midi, il n'y a plus rien sur la voiture. Et Dieu dit, voilà, dès qu'il y a un rayon de soleil, paf, il n'y a plus de piété. Et il y a des chrétiens, dès qu'ils ont une épreuve, dès qu'ils ont une contrariété, dès qu'il y a une circonstance qui est défavorable, dès qu'il y a un problème, ça y est. Ah moi, si c'est ça, ben moi, je ne marche plus avec le Seigneur. Dernièrement, j'avais été voir un gars pour la voiture et je lui avais expliqué mon problème que j'avais eu. Il me dit, mais vous croyez plus en Dieu alors maintenant? Franchement, je me suis retenu de rire. J'ai dit, mais vous croyez que j'aime Dieu parce qu'il m'a béni? Et c'était impossible, je n'avais pas le temps de lui expliquer. Mais mes frères et sœurs, la véritable piété, vous aimez Dieu quand tout va bien et vous aimez Dieu quand tout va mal. Vous aimez Dieu quand vous êtes malade, vous aimez Dieu quand vous êtes en bonne santé. Vous aimez Dieu quand vous êtes béni, vous aimez Dieu quand vous êtes moins béni. Parce que ça, on ne peut pas dire maudit, c'est impossible. Mais on peut dire qu'on aime Dieu même si on n'a pas la bénédiction qu'on aurait pu avoir. La piété, c'est ça. C'est que ce n'est pas une piété qui disparaît dès qu'il y a un petit rayon de soleil, là, hop, comme la rosée qui s'en va, comme la nuée qui disparaît dès que le soleil se lève. Notre piété, elle ne doit pas être superficielle. Si votre piété et votre crainte sont superficielles, Vous ne serez pas agréable à Dieu et vous ne serez pas prêt. Le problème, c'est surtout ça. C'est que vous ne serez pas prêt à rencontrer le Seigneur Jésus. Jésus a parlé des pharisiens. Il l'a fait adroitement. Mais il a parlé de ces pharisiens qui avaient une piété de façade, qui faisaient des prières pour... Vous savez, qui faisaient des prières pour mettre plein la vie aux autres. Vous vous rappelez ce genre de... Jésus en parle. Mais cette piété, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que je me pose la question. Mais quelle est la crainte que j'ai? Quelle est la piété que j'ai? Est-ce que je décroche chaque fois que j'ai un problème? Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile, certains problèmes. Mais Dieu a éprouvé Joseph, Dieu a éprouvé Jacob, Dieu a éprouvé Job, on a parlé. Dieu a éprouvé Abraham, Dieu a éprouvé... Tous ont été éprouvés. Et vous avez vu ces hommes, comment ils sont restés fidèles, ils sont restés fermes à la parole de Dieu. Nous sommes ébranlés. Vous avez lu Hébreux? J'ai pas insisté. Mais Dieu dit, j'ébranlerai le ciel et la terre. Faut comprendre. Dieu ébranlera... D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Je pense que je n'exagère pas. Vous avez vu tout ce qui se passe. Dieu ébranle la terre. Et ne resteront debout que ceux qui sont enracinés. Parce que ce qui fait la piété de quelqu'un, justement, ce n'est pas l'apparence. Je l'ai dit tout à l'heure. On voit quelqu'un à l'église, voilà, etc. On peut dire, tiens, il est bien, il est là, il connaît le cantique, il chante, il prie, etc. Non, non. Ce sont les racines. Jésus parle des racines. La racine est devenue sèche. Ils n'ont pas de racines. La racine, c'est tout ce qui ne se voit pas. Et la véritable piété, quelqu'un la possède, c'est par rapport à ce qu'on ne voit pas. Comment vivez-vous votre culte personnel? Comment êtes-vous à la maison? Comment serez-vous demain matin sur le chantier ou dans votre bureau ou, je ne sais pas, dans votre travail quelconque? Comment serez-vous? La piété, ce sont les racines. Ça ne se voit pas. C'est tout ce qui ne se voit pas, c'est la communion avec le Seigneur. Parce qu'en vérité, la communion avec Dieu, c'est quelque chose de privé. Notre vie n'est-elle pas cachée en Christ? C'est oui ou non? Est-ce que vous aimez avoir du temps tout seul avec votre Seigneur? Ça, c'est révélateur. Est-ce que vous aimez vous retrouver seul avec Dieu? 2 minutes? Un quart d'heure? 1 heure? Ou est-ce que c'est une corvée de vous retrouver seul dans la présence de Dieu? Ou est-ce que vous êtes capable de dire, oh, mais moi, je n'ai pas le temps? C'est pire encore. Un chrétien qui a de la piété, c'est un chrétien qui a choisi d'être ferme. C'est écrit, tenez ferme. Jésus, est-ce que c'est écrit dans la Bible? J'ai pris 4 ou 5 textes. C'est un choix. C'est un choix. Tout est un choix. Que celui qui se souille, ben se souille. C'est pour ça que je disais tout à l'heure avec sérieux. Mais si vous voulez vivre dans le péché, mais vivez dans le péché, ça ne sera pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est de vous avoir dit que si vous vivez dans le péché, vous serez perdu. Mais ce n'est pas moi de vous empêcher ou de vous obliger. Moi, je ne dites pas, on m'empêche dans cette église, on m'empêche dessus. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne vous empêche pas. Je vous dis la vérité. La vérité, c'est ce qu'on a partagé tout à l'heure. Quand David dit dans le psaume 17, « Mes pas sont fermes dans tes sentiers », vous croyez que ça lui est tombé dessus? Ou c'est lui qui a choisi d'être ferme? Il a choisi. Le psaume 78, « Leur cœur n'était pas ferme envers lui ». Voilà, c'est un choix. Regardez le psaume 112. On le lit, on va lire juste quelques versets. Je lisais ce psaume hier soir. Avant d'aller au lit, je lisais ce psaume. Vous voyez, je le lisais parce que je sais qu'il parle de cette crainte. Psaume 112, verset 1er. Regardez. « Heureux l'homme qui craint l'Éternel. » Vous y êtes? C'est un psaume que vous pouvez méditer et vous verrez que ça correspond bien à ce qu'on a partagé. Psaume 112. « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Tiens, en fait, est-ce que vous avez du plaisir à écouter l'exhortation que je vous adresse ce matin? Ou est-ce que ça vous languissez que j'ai fini? Non mais ça arrive, ça peut arriver, je ne vous jugerai pas parce que... Ouais. Regardez, alors on pourrait prendre ce qui nous intéresse. Le verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. C'est un choix. Quelqu'un qui se met à craindre Dieu, on voit après qu'il y a une véritable piété, son cœur est ferme. Paul dit, soyez ferme, inébranlable, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu donnes la paix, afin de tenir ferme après avoir tout surmonté, résister au diable avec une foi ferme, rester d'un cœur ferme attaché à l'Éternel. Je m'arrête. Un chrétien qui a une véritable piété, c'est un chrétien qui a dit ça, je ne le négocie pas. Dieu dit que c'est pas bien, et bien pour moi c'est pas bien non plus. Et Dieu vous bénira. Relisez le psaume 112. Un chrétien qui a une véritable piété, c'est un chrétien qui a soif de Dieu. Vous avez vu dans le psaume 42, mon âme a soif de Dieu, et il rajoute, du Dieu vivant. Vous entendez, mes frères et sœurs, mon âme a soif de Dieu, c'est le psaume 42, verset 3, du Dieu vivant. Je termine avec cette question, soyons honnêtes, vraiment honnêtes. Pourquoi sommes-nous ici ce matin? Répondez au Seigneur, dites-le lui. Pourquoi je suis ici ce matin? Pourquoi vous êtes ici ce matin? Parce que vos parents vous obligent à venir? C'est possible, vous savez, il n'y a pas de honte à mentir, mais vous les remercierez plus tard. Comment? Non, il n'y a pas de honte à venir, je voulais dire, excusez-moi. C'est bien, ça prouve qu'il y en a qui écoute. Mais un jour, vous remercierez vos parents. Un jour, vous les remercierez. Vous verrez, vous viendrez me le dire. Hein? Pourquoi je suis ici? De quoi ai-je soif? Est-ce que j'ai soif de bénédiction, de faveur? Ou est-ce que j'ai soif du Dieu vivant? Un Dieu vivant, c'est quoi? Mais c'est vraiment un Dieu qui parle. Moi, je crois que si on peut dire, oui, mon âme a soif de Dieu, bien sûr, je suis chrétien, il faut que je lise ma Bible. Non, mon âme a soif du Dieu vivant. Un Dieu vivant, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui console, c'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui a un plan. Est-ce que vous savez que Dieu a un plan? Etc. C'est un Dieu qui agira. Mon âme a soif du Dieu vivant. Un chrétien qui a la crainte, un chrétien qui a une véritable piété, c'est un chrétien qui est dans cet état d'esprit. Il est plein d'espérance. Et on pourrait continuer. Mais mes frères et sœurs, on pourrait continuer parce qu'il y a d'autres textes qui indiquent qu'il n'y a pas que la crainte et la piété. Il y a également ceux qui sont intègres. Ceux qui sont intègres, eh bien, ils sont agréables à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et si on prenait ces 4 ou 5 pivots, on ne peut pas en déduire que lorsqu'une église, elle a un Dieu vivant, Dieu va bénir l'évangélisation. Vous le croyez? C'est pour cela que nous devons nous interroger par rapport à notre place dans l'évangélisation. Mes frères et sœurs, réfléchissons chacun et demandons au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta maison? Quelle est ma place le jeudi soir? Peut-être c'est le jeudi après-midi, peut-être c'est le dimanche après-midi, quoique le dimanche après-midi on a un deuxième culte, mais qui est orienté aussi en évangélisation pour les personnes nouvelles. Et il y a des personnes qui se convertissent pendant ces cultes. Mes frères et sœurs, vous avez répondu au Seigneur parce qu'il avait besoin de la réponse. Mon âme a soif du Dieu vivant. Est-ce que Jésus est vivant dans votre foyer? Est-ce que Jésus est vivant dans votre cœur? Vous êtes heureux si vous pouvez répondre.